Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. J'ai la grande chance d'être avec Macha Merrill. Bonsoir.
Bonsoir, Sylviane.
Je vous ai écouté au Carré d'Art avec carte blanche pour toute l'analyse de Quand passent les cigognes. Merci à vous. Votre culture cinématographique et votre culture sur la Russie m'a impressionnée. On sent que c'est un sujet qui est important pour vous.
Eh bien, ce sont deux sujets qui sont importants. D'abord parce que je suis d'origine russe, de père et de mère. Hein, mon vrai nom, c'est Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina. Et j'ai dû changer de nom parce que le premier producteur avec qui j'ai tourné a dit « ça va laisser un nom à coucher dehors ». Pas question. Mais donc le cinéma est devenu assez tôt dans ma vie parce que nous étions pauvres et que j'ai très vite compris qu'il fallait que je travaille rapidement.
Gagner sa vie.
Et que pas seulement ça, il y avait, le cinéma est un art qui a besoin de jeunes. Mmh. Il faut commencer tôt, surtout pour les actrices.
Oui, parce qu'on dit qu'à 40 ans, c'est fini. C'est
alors, pas j'espère vrai. Bien que non, mais non, c'est pas tout à fait vrai. Mais c'est vrai qu'il y a cette chose un peu unique qui est les premières années, les premiers films qu'on fait, il faut qu'on ait la fraîcheur extraordinaire de ces premières années. Et que ça ne se répète pas. Hein. Mais et le film que j'ai présenté, donc, que vous avez vu, qui s'appelle Quand passent les cigognes, ce qui est frappant, c'est la beauté, la fraîcheur de cette actrice. Elle s'appelle Tatiana Samoilova. Mmh. Elle est une grande actrice, hein, une actrice qui avait joué au théâtre et tout ça.
Magnifique.
Et alors, elle a ce visage. Ça, on ne peut pas tricher là-dessus, si vous voulez. On sent qu'elle est véritablement le rôle et le personnage, cette jeune fille très, très jeune qui se fiance et qui a encore toutes les angoisses d'une jeune fille qui ne sait pas comment va être sa vie, tout ça. Malheureusement, il faut avoir ce capital au début de sa carrière de cinéma. Mais le cinéma m'a tout de suite passionnée pour d'autres raisons. Parce que je pense que le cinéma est un sérum de vérité. C'est une façon de voir une époque et de voir aussi sa propre vie. C'est quand on se voit à l'écran, je suis sûre que ça vous est arrivé, quand on vous filme.
Quand j'étais comme ça.
N'est-ce pas? C'est un moment de vérité incroyable. Et c'est surtout, alors quand il s'agit de fiction, de cinéma, c'est les idées qui arrivent à se transformer en film, sont un portrait de l'époque. Et moi, j'aime le cinéma pour ça, parce que tous les films qu'on voit, les vieux films, nous racontent aussi l'histoire de l'humanité.
Et c'est sociologique. Hein.
C'est tout à fait sociologique. Et vous savez, pourquoi est-ce que la Nouvelle Vague a été un tel événement? Parce qu'elle était inspirée par le documentarisme, par Jean Rouch, par Yuri Sivens, c'est-à-dire des gens qui photographiaient le réel. Oui. Et tout d'un coup, tous ces jeunes cinéastes, Truffaut, Godard, Daniel Valcroze, ils ont voulu se détacher de ce qui était un peu carton-pâte dans le cinéma qu'on faisait en studio avec des gens maquillés, surmaquillés, où on cache les défauts des uns des autres, où tout est un peu bidon, le décor raconte derrière, il n'y a rien. Bon.
Mais il y avait de très belles choses, même dans le cinéma d'avant.
Bien sûr, maintenant je les apprécie. Mais au moment, alors moi j'étais radicale, hein. Tout ça c'était du caca
à la
pour
poubelle,
moi.
À la poubelle.
Et qu'est-ce qu'on a été méchants d'ailleurs, on a vraiment liquidé certains cinéastes, Duvivier, René Clair, tout ça, on les a absolument supprimés.
Oui, mais j'en reviens à Quand je passe les cigognes, où vous avez dit que Lelouch en est inspiré. Enfin, il y a tout de même. On ne peut pas renier le passé, on se sert aussi du passé.
Alors, attendez, là, il y a un truc très particulier de ce film-là. C'est que c'est un film qui ressemble à ce que Claude Lelouch a essayé de faire toute sa vie après. Oui. C'est-à-dire, c'est l'image en mouvement et une caméra qui est tout le temps en mouvement, tout en étant intelligente, c'est-à-dire elle n'est pas en mouvement, c'est juste pour nous étourdir.
Pour nous étourdir.
Elle est là pour aussi montrer les sentiments.
Vertige,
non, les sentiments intérieurs des personnages, qui n'est pas du tout la même chose. Ce sont des mouvements très, très intelligents. Et puis.
Mais le vertige peut être très intelligent.
C'est une perte de conscience, non.
Quand il, meurt et qu'il imagine son mariage, c'est un vertige magnifique.
Voilà, on est dans le rêve total, oui, et c'est très onirique. Mais ce film-là, quand même, qui est une grande leçon de cinéma, je comprendrais bien très bien que Lelouch, quand il a vu ça, ou surtout quand il a assisté au tournage, il a été bouleversé, parce que ça a été une révélation pour lui.
Vous avez encore pleuré lors du visionnage, vous pleurez à chaque fois.
Écoutez, c'est irrésistible. Oui. Cette jeune femme qui... parce que ce qui est très beau dans ce film, c'est que les personnages, ils sont pas caricaturaux. Oui. C'est pas noir et blanc. Le film est noir et blanc, mais eux, ils sont. Ouais. C'est très nuancé, très subtil.
Et puis, je pense que c'est toujours, c'est universel. C'est-à-dire là, c'est la guerre contre le nazisme, et ça peut être la guerre en Ukraine, peut être la guerre au Moyen-Orient, ça peut être les guerres.
Toutes les guerres. Moi, j'ai pleuré cette fois-ci parce que hier, la journée. Les obsèques de Navalny m'a tellement bouleversée. J'ai pensé à ça. J'ai pensé que c'est pas possible. De nouveau la guerre, encore. On croyait que c'était fini pour toujours.
Et on l'a dit en 18 aussi. Hein.
Oui, mais écoutez, là, ça durait, ça faisait 50 ans. On pensait que c'était peut-être vraiment sérieux. Et puis, ce Navalny, quel personnage, quel héros. C'est un héros russe. Ouais. Hein, et je crois qu'ils ont quelque chose de spécial. C'est-à-dire... une sorte de romantisme dans la douleur et dans l'horreur même.
Ben c'est Dostoïevski.
Attention, Dostoïevski était nihiliste, c'est pas tout à fait la même chose. Hein.
Vous me contrez.
Oui, parce que je ne suis pas d'accord. Je n'aime pas qu'on fasse référence à lui.
Mais c'est les auteurs russes, disons en général, tout de même, Tolstoï.
Oui,
en fait,
oui. Aussi. Alors ça, c'est l'ampleur. C'est la noirceur à cause du destin qui plane sur ces gens et sur ce pays. Ma mère disait toujours Nishchastyena strana, ça veut dire quel pays malheureux. C'est un pays qui n'a vécu que des choses épouvantables. Mmh. Un peuple qui n'a vécu que des choses épouvantables. Et quand ils sont sortis du communisme, tout d'un coup, ça les a sonnés. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont été assistés pendant 70 ans. Puis tout d'un coup, à la chute du mur, il a fallu qu'ils se débrouillent tout seuls. Il y a eu quelque chose de très violent. Tout est violent dans la culture russe et dans l'histoire russe.
Oui, tout à fait. Mais je voulais revenir justement à ce nom de scène que vous avez pris, alors que je trouve que vous êtes très slave dans vos traits. Mm-hmm. Ce Macha Meryl, en fait, il ne vous a pas gêné.
Mais c'était l'époque. Ouais. À l'époque, il ne fallait pas déclarer ce qu'on était. C'est maintenant qu'on peut s'appeler Nils Arestrup ou Luther Romaine.
Et dans votre vie quotidienne,
attendez. Non, moi, finalement, j'en suis ravie. Parce que j'ai une double vie. J'ai ma vie professionnelle avec ce nom, qui est un nom d'ailleurs que j'ai emprunté à une chanteuse de jazz.
Oui, j'ai lu ça, j'ai
Helen
découvert.
Merrill. Et Macha, j'ai réussi à garder mon prénom, mais je ne suis pas sûre que j'ai eu raison. J'aurais mieux fait de m'appeler Yvette ou Françoise.
Ah non, Macha, je trouve que ça...
Oui, pour vous maintenant, mais à l'époque.
Ça faisait un peu étranger.
C'est exactement. Et donc, il fallait absolument que je me fonde un peu dans les actrices françaises, avec le répertoire français. Bon. Puis ensuite, quand même, il y avait que je n'avais pas l'air d'une Française. Parce que moi, je suis grande, je suis baraquée, je suis un peu charpentée. Je me rappelle quand on faisait des essais pour les films, il y avait toujours, Françoise d'Orléac, moi, Valérie Lagrange et Marlène Jobert. Moi, je n'entrais pas dans le costume. Il y avait un costume pour tout le monde, pour le masque de fer ou pour les mariés de l'an 2. Elles entraient dans le costume, parce que moi, non. Parce que quand même, la différence, elle se voyait sur ma gueule. Je ne pouvais pas le changer, ça.
Et donc, ça me fait penser à Philippe Noiret aussi, qui souvent a dit, quand il était jeune, qu'il ne rentrait pas dans les rôles.
Lui, il était tout simplement grand et imposant.
Avez donc connu le cinéma à une autre époque. J'ai lu que vous avez 64 ans de carrière, c'est ça?
Ben oui, ma chérie, j'ai 84 ans.
Oui. Et 88 séries ou films, c'est pas mal. Hein,
film, plus que ça, une centaine. Non. J'ai fait beaucoup de films, j'ai fait quelques télévisions aussi, beaucoup de télévisions. J'aime beaucoup la télé quand c'est bien, quand c'est intelligent, quand c'est pas trop bien pensant et tout ça. Mais dans l'ensemble, oui, j'ai fait une centaine de films, mais surtout, quels films? J'ai eu cette chance, comme je vous disais, j'ai pas choisi ma date de naissance, et donc je suis tombée en plein pendant cette nouvelle vague dont j'ai tourné avec Godard, avec Agnès Varda, avec István Szabó, grand cinéaste hongrois, avec Andron Konchalovsky, un film qui s'appelle Duo pour une soliste, Duet for One, que nous avons tourné en Angleterre, avec Julie Andrews, Alan Bates, Rupert Everett, Liam Neeson. Voilà.
Que ça.
J'ai eu vraiment des chances. Et avec Fassbinder, avec plus récemment, quand même, j'ai tourné avec Miller, avec. Je cherche les Français, mais avec Claude Lelouch, j'en ai fait plusieurs. Hein. Ouais. J'ai fait Robert et Robert, j'ai fait Au nom de tous les miens, qui est magnifique.
Ah, Au nom de tous les miens, c'est un de mes films.
C'est son plus grand film.
C'est extraordinaire. Et puis on sent une telle. Je vous disais au début, au niveau de l'histoire, vous disiez la sociologie, c'est.
Oui.
Chacun peut y trouver quelque chose.
Oui, d'ailleurs, je te dis une bêtise, parce qu'Au nom de tous les miens, c'est le film d'Henri Co, qui est très beau et mon rôle est absolument bouleversant. Ouais. Mais je pense surtout aux Les uns et les autres. De Claude, qui est pour moi son meilleur film et qui est très inspiré par le film de Kalatozov, de Ce qu'en passent les cigognes.
Et vous, comment vous, en étant jeune actrice, vous vous mettiez en observation, vous m'avez l'air d'être très attentive, de piocher un tas de choses, d'emmagasiner.
Alors j'ai deux attitudes. Quand je suis avec un grand metteur en scène, ou une grande metteur en scène, je suis d'une docilité totale. J'attends qu'elle fasse quelque chose de moi et je suis comme une pâte à modeler. Quand j'ai affaire à des gens un peu moins géniaux, alors là je m'en mêle un peu, c'est-à-dire que quand même je surveille de manière à ce que je vois à peu près. Je connais très bien le cinéma, je connais les objectifs, je connais les distances.
Dans vos commentaires qu'on sentait que vous connaissiez l'aspect technique.
Donc on ne me la fait pas. C'est-à-dire que moi, je sais comment on me filme et je vois tout de suite. Et c'est très agréable pour la plupart des cinéastes, ils préfèrent ça, ils aiment bien, parce que comme ça, on perd moins de temps à expliquer et tout ça. Et puis je crois qu'il faut. Le cinéma, c'est la grande différence avec le théâtre. C'est qu'il faut connaître tout ça, la technique, et que le sentiment d'un plan n'est pas le même selon l'objectif avec lequel on vous filme. Ouais. Et puis aussi la distance, et puis le savoir qu'est-ce qu'il y a autour, et puis qui on voit, et la lumière. Vous savez ce qu'on voit dans un écran? J'ai appris ça à l'école de cinéma, à la FEMIS. On voit le point lumineux, on voit la chose qui bouge, ou le centre. L'œil n'est pas très sélectif. En plus, ça passe, c'est quand même assez rapide, les images. Donc, l'œil n'est pas riche. Tout ce qu'on voit tout autour, souvent, on le loupe.
Ouais.
Donc, je sais qu'on donne beaucoup d'attention quand on tourne un film à tout ce qu'on met dans le cadre. Mais finalement, ce qu'on voit...
C'est pas ça le plus important.
Le plus important, il faut savoir ce que c'est. Et je me rappelle de certains films où on voit des acteurs chevronnés qui, derrière... l'acteur principal ou l'actrice principale qui a du dialogue, derrière, ils font des bêtises, ils bougent.
Il faut rester concentré.
Et c'est ça qu'on voit et pas du tout l'acteur qui est en premier plan. Donc il y a des techniques de...
On sent cette joie de vivre en vous qui est là, qui, malgré toutes les épreuves, parce que vous parliez de vos parents qui ont cette arrivée en France compliquée, le décès de vos pères, vos amours, le décès de Michel Legrand. Bon. Et vous continuez, et vous gardez cette...
Mais est-ce que vous ne croyez pas que tout le monde reçoit le même lot de malheur?
Oui, mais l'important, c'est savoir qu'est-ce qu'on en fait.
Voilà. C'est-à-dire, l'idée, c'est que il ne faut pas considérer qu'on est une victime. C'est la clé. Il faut penser que ce sont des épreuves qui sont aussi grandes que ce qu'on est capable de supporter. Donc, si elles sont grandes, c'est qu'on a pensé que vous étiez capable de les gérer. Et il faut prendre ça comme ça, avec beaucoup d'orgueil et beaucoup de force, de caractère. Et puis aussi, les épreuves, c'est intéressant. C'est ça qui nous forge. C'est pas les moments heureux, les
succès.
Mais
on les réclame pas tout de même. C'est-à-dire, si on pouvait échapper à certaines,
on n'échappe pas. Alors c'est pas difficile. Donc c'est pas la peine de réclamer parce que de toute façon on y passe. Alors c'est tant qu'à faire.
Alors je pensais, parce qu'on a vu ce film et la salle du Carré d'Art était pleine quand passent les cigognes. Vous avez parlé au début de Nîmes avec le tournage de Sans toi Nîlois, mais vous n'avez pas choisi cette bande-annonce dans cette émission. On va venir après cette bande-annonce, on va venir à d'autres aspects parce que vous n'êtes pas qu'actrice. Vous avez choisi l'été 42, la bande-annonce de l'été 42. Pourquoi ?
Alors, c'est une musique de Michel Legrand et je trouve qu'elle se prêterait formidablement à Quand passent les cigognes. Si on lui avait demandé d'écrire une musique pour ce film, je pense qu'il aurait fait une musique de cette façon-là. C'est-à-dire une musique qui est nostalgique, où on se replonge dans le passé, dans une époque révolue. Parce que Quand passent les cigognes, ça a été tourné en 58 et il s'agit de gens pendant la guerre.
Ah oui,
la donc ils sont en costume. Ils sont en costume. C'est un film d'époque. Et Été 42, c'est une musique inoubliable.
Oui, je l'ai bien en tête.
Ta-di-da-da, 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 ta-di-da-di.
Ce côté et toujours.
Et il y a cette cyclique. Chose chez Michel Legrand, c'est qu'on est, on est là, c'est tout de suite, et en même temps, ça évoque énormément de choses du passé. C'est très évocateur, les musiques de Michel. Et c'est surtout, ça nous va droit dans le cœur. Comme ce film est un film extraordinairement sensible, qui vraiment raconte comment est-ce qu'on se débat dans la vie, comment est-ce qu'on se débat entre nos sentiments, nos devoirs, nos capacités, je pense que cette musique conviendrait très bien.
Alors sur Radio Alliance Plus, je continue cet immense plaisir d'avoir en face de moi Macha Merrill, merci encore. Et vous n'êtes pas qu'actrice, alors on a parlé surtout de cinéma, bon le théâtre, mais vous venez aussi de signer des livres. Quand est-ce que la passion, le goût de l'écriture vous est venu? Et puis une deuxième question en même temps, oui. Puisque vous allez répondre en même temps. Beaucoup de livres sur la cuisine aussi, je trouve ça extraordinaire. Alors, de mêler.
J'ai eu peur de la littérature parce que j'ai une formation de lettres. Moi, j'avais fait la Sorbonne. J'ai vite arrêté parce que le cinéma m'a embarqué et donc j'ai dû arrêter. Mais je me destinais à des études de lettres. Mais quand même, l'idée d'écrire, pour moi, c'était tout d'un coup en rivalité avec tous ces grands auteurs que j'ai tellement adorés. Eh bien, c'est une d'elles qui m'a donné la force. Je tournais Colette, une série sur Colette. On était dans son appartement. Place du Palais Royal. Et on tournait de nuit parce que j'avais un maquillage très compliqué de vieillissement, parce que j'ai fait Colette de 25 à 73 ans. Et donc, dans la fameuse interview qu'elle a donnée tout à fait à la fin de sa vie, c'était très amusant d'ailleurs, un maquillage très compliqué, on me collait des trucs sur la figure. Bon. Et on faisait des pauses de temps en temps. Et je me mettais à sa fenêtre, je voyais le jour se lever. Elle a écrit ses plus beaux ouvrages à la fin, Le Fanal Bleu, l'Étoile Vespère. Et à un moment donné, je sens comme quelqu'un qui me tape sur l'épaule comme ça et qui me dit vas-y. J'ai compris qu'il fallait que je lui réponde, que je sois à la hauteur de Colette. Bon, naturellement, j'ai commencé en douceur par des livres de cuisine, mais attendez, pourquoi j'ai eu tellement de succès? Parce qu'ils sont écrits. Voilà. Parce que c'est des gens qui racontent des histoires. Et le goût de l'écriture, vous savez, c'est difficile d'écrire un livre de cuisine. Bien sûr. Qu'il faut être précis, il faut être scientifique, mais en même temps, il faut quand même
emporter
le morceau quand même. Voilà. Et donc, quand j'ai vu ce succès que j'ai eu, surtout avec le premier, alors j'étais sidérée, j'ai fait 100 000 exemplaires avec Joyeuse Pâte, et puis j'ai écrit un sur le riz, un sur les haricots, un sur. Je me suis dit, ma fille. Alors peut-être qu'il y a une veine.
Autre chose,
voilà.
Oui.
J'ai commencé par de l'autofiction parce que très sincèrement, je pense que on ne parle toujours que de soi, même quand on écrit des romans, on fait de la fiction. Et puis, je me suis attelée au roman plusieurs fois. Mon plus réussi à ce jour, c'est un livre qui ressuscite mes souvenirs de Russie, enfin pas de Russie, mais de Russes, c'est-à-dire l'émigration russe en France, les Cosaques, qui sont des gens qui étaient les seuls à espérer retourner en Russie et qui attendaient assis sur leur valise en pensant que le communisme ne prendrait pas. Et puis, certains d'entre eux, pendant la guerre, se sont enrôlés dans la Wehrmacht parce qu'ils pensaient que Hitler les débarrasserait du communisme. C'est une histoire que peu de gens connaissent et j'ai connu certains de ceux-là. J'ai voulu vraiment raconter ça. Alors, c'était des gens incroyables, parce qu'ils sont presque tous morts maintenant, mais ils mangeaient russe, ils parlaient russe, ils chantaient russe, ils vivaient entre eux, ils ne voulaient pas s'intégrer, ils ne voulaient pas être français. Et beaucoup d'entre eux sont morts à la guerre, justement, d'une façon très tragique, parce qu'ils sont allés sur le front de l'Est, et ils étaient entre deux feux, parce que finalement, il fallait qu'ils tirent sur des Russes, et ils étaient avec les Allemands, enfin, c'était cauchemardesque.
Et alors, vous avez fait des recherches dans les archives, ou c'est des témoignages, ou c'est...
Un peu de tout, c'est-à-dire beaucoup d'histoires que je connaissais, et puis j'ai dû travailler, parce que alors là, tout d'un coup, je me suis aperçue, comme c'était un livre historique, il a fallu que je me plonge dans tous les récits historiques, et je suis assez fière de moi, parce que j'ai fait un double travail, justement, un travail d'historienne et un travail d'écrivain. Mais après, ce qu'il faut... Vous savez, dans l'écriture, ce qu'il faut, c'est créer un contact avec le lecteur. C'est-à-dire qu'il faut que le lecteur soit accroché. Il faut qu'il ait envie de vous suivre.
C'est dans les 15 premières pages.
On le sait tout de suite. On le sait tout de suite.
On le sait tout de suite.
Voilà. Et ça, voilà. Peut-être qu'on n'accroche pas tout le monde, mais quand même. Donc, il faut trouver une façon d'aller droit dans les sentiments les plus profonds. On ne peut pas être superficiel quand on écrit. Et c'est ça qui m'a plu. Ouais. C'est ça qui m'a embarqué parce que j'en suis à mon 25e livre, 27. Ouais. Et je crois que l'écriture est un terrain de jeu, si je peux dire, où on va assez loin. On
plus dit qu'au beaucoup cinéma de
choses. Oui. Au cinéma, c'est les autres qui décident pour toi. C'est pas, on te coupe en rondelles après. Mais ce que là, l'écriture, on est seul avec l'histoire.
Et réaliser, ça vous a jamais...
Oui, j'ai fait un film qui s'appelle La Turca. J'ai trouvé ça très pénible et très dur, surtout de trouver l'argent avant pour faire le film.
Oui, il y a le côté tout administratif.
Ça m'a épuisé. D'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe, c'est que les cinéastes, ils sont éreintés quand ils commencent le film parce que toutes les phases précédentes pour trouver le financement.
Parce que vous disiez, quand passent les cigognes, il y a eu 6 mois de tournage. Maintenant, il faut faire les films en 3 semaines, en
c'est
un
ça,
mois.
Exactement.
Il faut,
Mais à l'époque, c'était. Ouais. L'époque soviétique n'a pas eu que du mal. Par exemple, tout le monde lisait en Union soviétique. Les livres étaient quasiment gratuits. Ils étaient tous lettrés. Tout le monde a été alphabétisé, même dans le fin fond de la Russie, en Yakoutie ou en Bouriatie. Ça, c'est le grand mérite du communisme.
J'ai vu quand il écrit le petit mot à l'écureuil, il y a le buste de Lénine sur la table. Et c'est vrai que Lénine, il y avait l'alphabétisation.
Hein. C'est le grand mérite qu'a eu le communisme. Il n'a eu que des horreurs après. Mais quand même, ça a été un mérite. Et puis...
Même si on apprenait à lire sur... sur les textes officiels, mais bon, pourquoi pas. Et après, il y a eu Mao,
il lisait la littérature française. Moi, j'étais très frappée, parce que les premières fois que je suis allée en Russie, j'ai rencontré des jeunes qui parlaient parfaitement le français sans jamais mis les pieds en France.
Ça, c'est l'héritage napoléonien, hein, quand on lit
je ne suis pas sûre.
Quand on lit toutes les époques napoléoniennes, le français était très...
Attendez, mais moi, dans ma famille, les grandes familles russes, ils parlaient français. Ouais. Et surtout, alors, ma mère a raconté dans son livre « Blond étaient les blés d'Ukraine » qu'elle a écrit à mon incitation, elle a écrit un livre, ses souvenirs de jeunesse, que dans cette grande famille, il y avait 4 gouvernantes. Une allemande, une anglaise, une russe et une française.
Donc vous étiez obligé d'apprendre les 4 langues.
Absolument. Et chaque soir, à table, on parlait la langue d'une des gouvernantes. Mmh. Alors la française était chargée de dépuceler les garçons et d'apprendre à faire des confitures. L'anglaise, c'était pour les bonnes manières. L'allemande, c'était l'éducation. Alors c'était vraiment elle qui
avait mieux.
Et la russe, c'était pour le cœur, la gnagna, c'était pour les chansons et pour la psyché.
Donc même si vous n'avez pas été élevé en Russie, vous avez tout ça en vous, avec les souvenirs de votre
parents,
mère,
bien
surtout.
Sûr, ma mère, bien sûr.
Et c'est de la nostalgie ou c'est une grande joie, en fait, d'avoir ces origines russes?
C'est ma différence.
C'est votre différence.
C'est ma différence et c'est un truc en plus.
Ouais.
J'ai été élevée comme une jeune fille française. J'ai fait mes études dans un lycée, à l'école communale d'abord. Et puis, mais j'ai ça en plus. Et c'est mon petit trésor personnel.
C'est votre très belle personnalité. Merci à vous, Macha. Et encore merci de m'avoir consacré
du temps. Merci, Sylviane, et à bientôt.